sous la terre rouge.
Sous la terre rouge.
Les graines de la relève.
Les graines de la relève.
Manaone, bonjour à tous. À Madagascar, on dit souvent que si on s'en sort bien dans la vie, c'est grâce à ses parents. La transmission entre les générations prend une dimension particulière sur l'île. Pendant un mois, les étudiants du QEJ se sont immergés dans la culture malgache, un travail d'équipe réalisé avec les étudiants de l'IEP de Madagascar. Alors bienvenue à tous dans notre émission « Sous la terre rouge, les graines de la relève ». Dans la capitale, mais aussi en brousse, nous avons tendu notre micro à ceux qui font et feront l'île. Dans cet épisode, l'écho des ancêtres, vous allez rencontrer des malgaches qui s'approprient leur héritage culturel. Mélanie Kuzelevitch, bonjour.
Tungasu, bienvenue Manaone, Salama, Daoul. Pour cette émission consacrée à l'héritage culturel malgache et au patrimoine, nous irons fouler les herbes hautes où broutent les troupeaux de zébus, ces animaux emblématiques de Madagascar menacés par les dahals. Puis nous irons faire un tour sur l'allée des baobabs, une aire protégée touristique qui tente de garder ses allures de carte postale. À Madagascar foisonnent les baobabs, bien sûr, mais il existe aussi des plantes uniques utilisées dans la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, elles sont étudiées par les laboratoires pour faire des médicaments. Pour finir dans cette émission L'écho des ancêtres, nous rencontrerons des jeunes qui se passionnent pour le kabar, une forme de discours poétique et ancestral.
Mais d'abord, allons à la rencontre d'un animal symbolique à Madagascar. Le zébu fait partie du patrimoine de l'île, mais certaines personnes craignent sa disparition.
En France, on dit que tout est bon dans le cochon, mais ici, c'est le zébu que l'on mange sous toutes ses formes. De la langue à la queue, il est au menu de tous les restaurants. Pourtant, depuis quelques années, le nombre de zébus diminue. Il est passé de 20 millions de têtes en 2005 à 9 millions en 2015. Tatiana Geiselman et Valinsou Razafin-Jachim se sont rendus dans la région de Bungulav, dans l'ouest de Madagascar, ils ont rencontré des éleveurs.
À Tirumandid, la capitale de la région Bungulav, le coq sonne l'heure du départ. Les enfants prennent la route de l'école, les zébus celle des champs. Dans cette petite ville des montagnes, les troupeaux de 10, 15, voire 40 têtes défilent dans un nuage de poussière rouge. D'un coup de fouet sec, Sergio Mandinito conduit ses 30 zébus au champ. Il a 18 ans et comme pour ses ancêtres, le zébu a pour lui une valeur symbolique très forte.
Pour nous les malgaches, le zébu est une richesse. Il t'aide au travail ou au moment des rites traditionnels. On tue aussi les zébus quand il y a un décès. Et quand on a besoin d'argent, par exemple, on peut le vendre. Pour nous ici à la campagne, le zébu est une sorte de banque.
Mais cette banque est mise en péril par les dahals, les voleurs de zébus. Traditionnellement, les dahals volaient 4 ou 5 têtes dans un village voisin pour prouver leur virilité. Mais aujourd'hui, la pratique s'est transformée en grand banditisme. Dans le Grand Sud comme dans l'Ouest, des troupeaux entiers sont dérobés. Chapeau de paille sur la tête, M. Rakundra, 77 ans, fait brouter ses deux derniers zébus sur le haut d'une colline.
Avant, j'avais 80 zébus. Les dahals sont venus, ils ont tout pris d'un coup. Ils ont tiré un coup de feu, je suis resté dans la maison. Et ils sont partis avec tous les zébus que j'avais. Maintenant, je suis dépouillé.
Les attaques des dahals sont souvent meurtrières. Pour M. Tivanini, un autre éleveur de la région, la situation n'est plus tenable. Lui a perdu plus de 230 bêtes au cours des dernières années.
Ici, les gens sont décimés. C'est comme de la chair à volaille qu'on donne au boucher. Ils tuent des gens, tous les jours, 5 à 10 personnes. Ils emportent les zébus après avec eux.
Le gouvernement peine à maîtriser la situation. Depuis 2002, les opérations militaires spéciales s'enchaînent. À chaque fois, plus d'un millier d'hommes sont déployés dans les herbes hautes des campagnes à la recherche des dahals. Et les bilans sont lourds. 160 morts et 80 blessés en 2015. Mais ces interventions ne suffisent pas, comme l'avoue Amimo, la chef de district de Tirumandid.
Si vous êtes éleveur, agriculteur, maire, chef d'arrondissement, chef de village, gendarme, tout ça, tout le monde est responsable de la sécurité. Donc là, tout le monde doit y participer. Par exemple, de nous donner des renseignements, par exemple, pour savoir est-ce que il y a des étrangers qui étaient venus ici pour savoir aussi qui est le responsable de ces hébergements, tout ça. afin de savoir les nouveaux venus dans le village.
Dans ce climat de peur, les éleveurs tentent de trouver des solutions. Assis dans le creux d'un vallon, Georges surveille ses 2 hectares de rizière. Ses employés sont en train de frapper les gerbes de riz sur un tonneau métallique pour en faire tomber les grains. Lui possède un gros cheptel, 40 bêtes.
Les dalles sont vraiment un problème ici. C'est tellement difficile. Ça donne envie de vendre mes zébus. Alors du coup, je les partage. J'en mets quelques-uns chez moi, quelques-uns au village. Comme ça, si on me les vole, ils volent soit ceux qui sont au village, soit ceux qui sont chez moi. Et ça me laisse toujours quelque chose pour vivre.
À côté de lui, son fils Daniel est en train de moissonner le riz. Malgré l'insécurité, lui aussi veut devenir agriculteur, car il n'a pas d'autre alternative.
Moi, je ne sais pas beaucoup aller à l'école. Du coup, là, je suis dans l'agriculture. Je ne sais pas encore ce que je vais faire plus tard, mais je suis prête à rester dans l'agriculture.
Or, pour cultiver le riz, impossible de se passer des zébus. Seuls les zébus peuvent tirer les charrettes pour atteindre les rizières. On utilise aussi leur fumier comme engrais et leur force physique pour labourer la terre. Alors, pour limiter les convoitises, Daniel ne s'achètera que quelques zébus. À 1 million d'ariars, soit 240 euros le zébu en moyenne, mieux vaut limiter le nombre de bêtes.
Je voudrais juste avoir le nombre de zébus pour suffisamment travailler dans les champs. Si j'en ai trop, ça va donner envie aux étrangers et aux autres éleveurs de me les voler.
C'est l'heure de rentrer au village pour les agriculteurs. Les zébus tirent les lourdes charrettes avec la moisson du jour. À Tirumandid, David Rajenarson a déjà rapatrié ses bêtes dans son enclos. Même s'il est fier d'être éleveur, il ne souhaite pas que son fils de 4 ans fasse le même métier que lui plus tard. C'est trop dangereux.
Ce que j'aimerais, c'est que mon fils fasse quelque chose d'autre qui développe l'agriculture et l'élevage. J'aimerais qu'il devienne vétérinaire ou quelque chose comme ça.
Et pour arriver à payer des études de vétérinaire à son fils, David va donc continuer de veiller au grain sur son troupeau, car son cheptel de 30 bêtes est sa seule épargne.
Il est malin.
C'était un reportage de Tatiana Geiselman qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Tatiana.
Bonjour Mélanie.
C'est à Tirumandid que se trouve le plus gros marché aux zébus de l'île.
Tous les vendredis, plus de 300 bêtes partent en direction des abattoirs d'Antananarive pour approvisionner la capitale en viande. Comme nous l'avons entendu dans votre reportage, Tatiana, tous les mois, des cheptels entiers disparaissent. Mais que deviennent ces zébus volés et comment font les dahals pour écouler les centaines de bêtes qu'ils dérobent ?
Eh bien, ils les revendent. C'est là la deuxième grande difficulté de la filière bovine à Madagascar, le blanchiment de zébus. En théorie, il existe de nombreuses étapes pour contrôler la provenance des troupeaux. Chaque bête porte une boucle d'oreille d'identification. Les zébus possèdent aussi des passeports, qu'on appelle fiches individuelles de bovidés. Tous ces documents sont vérifiés lorsque les bêtes changent de district ou de région, mais la filière est gangrénée par la corruption. Pour se procurer de faux certificats, il suffit de se tourner vers des vétérinaires, des employés de préfecture ou des administratifs de région corrompus. Même les gendarmes sont accusés de participer au trafic. D'après les éleveurs que j'ai rencontrés dans le Bungulav, au lieu de vérifier la légalité des bêtes, les gendarmes demandent un bakchich, puis ils laissent filer les camions remplis de zébus sans aucun contrôle.
Finalement, toutes les bêtes volées sont revendues sur les marchés de zébus au milieu des autres troupeaux.
Et oui, en grande partie. Impossible de chiffrer précisément l'ampleur du phénomène, mais une large part du zébu consommé à Madagascar provient des vols. À côté de ça, il existerait aussi une autre filière, c'est celle de l'export. Selon certains commerçants que j'ai rencontrés sur le marché de Tirumandid, une partie des zébus volés serait acheminée vers l'Asie et en particulier vers la Chine. Mais là encore, difficile de prouver le phénomène.
Tout de suite, direction Batoulamp, à 70 km au sud de la capitale. Nos reporters ont suivi Monsieur Benz, il est botaniste à l'IMRA.
Créé en 1957, l'Institut malgache des sciences appliquées, l'IMRA, développe aujourd'hui des phytomédicaments. Ce sont des médicaments à base de plantes médicinales.
Ces médicaments sont tout droit tirés de la culture et de la médecine traditionnelle. Ils sont ensuite utilisés pour soigner la population. Pour découvrir des nouveaux principes actifs, l'IMRA envoie des botanistes comme M. Benz à la rencontre des tradis praticiens. On écoute le reportage de Pierre-Antoine Lefort et Salah Rabarisson.
On va en Batoulamp pour se renseigner parce que c'est indiqué qu'il y a encore quelques gens qui pratiquent la phytothérapie. Mon rôle, c'est de faire l'enquête dans toutes les campagnes pour se renseigner quelles plantes les praticiens utilisent pour traiter quelles maladies.
Je m'appelle Paul Randrianassou. Je suis le guérisseur du village. Quand on vient me voir, je fais d'abord un massage pour connaître la maladie et je la traite ensuite avec des plantes.
Et vous pouvez guérir toutes les maladies ?
Oui, par exemple, s'il s'agit d'une grippe, on fait le massage, puis une infusion. Le malade inhale la vapeur et boit la décoction ensuite.
Ça, ce sont des fruits d'un solanum auriculatum utilisés pour le traitement de la carie dentaire.
Et ça, vous connaissiez cette utilisation ?
Ça, non. Je vais essayer à tester cette activité-là à Limra.
Aujourd'hui, comme travail de labo, on va vérifier l'activité antihistaminique d'un extrait de plante sur la trachée isolée de cochon d'Inde. Je m'appelle Rangeneri Namam Julien, assistant de recherche au niveau du laboratoire de pharmacologie expérimentale. Donc la pathologie ici c'est l'asthme. Je vais tester donc un extrait de plante qui va me permettre de voir si cet extrait va inhiber l'activité de l'histamine. Donc maintenant on va prendre l'extrait de plante qui va être testé donc dans la cuve contenant la trachée. On voit qu'il y a eu diminution de l'amplitude maximale en présence de l'extrait de plante. C'est donc un antihistaminique et ça vérifie l'utilisation de la plante comme antiasthmatique dans la médecine traditionnelle. Pour le développement du médicament, ça va prendre dans les 15 ans. Dans le développement du phytomédicament, donc déjà c'est plus court et en plus les phytomédicaments peuvent être vendus à moindre coût au niveau local.
On essaie de valoriser en fait la biodiversité de Madagascar. C'est très important parce qu'on a des ressources naturelles très riches. Je m'appelle Charles-André Anjara. Je suis le directeur général en fait de la Fondation Albert et Suzanne Narakutra Simamang. Et lorsque on est sûr que la plante possède donc l'activité, on connaît la dose et la plante ne présente pas d'effet secondaire, nous déposons une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et c'est le ministère de la Santé publique qui nous délivre en fait cette autorisation pour donc vendre nos produits.
L'IMRA produit donc des phytomédicaments pour le marché local, mais l'Institut développe aussi des médicaments vendus à l'étranger. Et là, c'est plus compliqué. Bonjour Teresa Steudel.
Bonjour.
Pour fabriquer des médicaments, l'IMRA doit s'associer avec des grandes industries pharmaceutiques.
Parce que produire des médicaments, ça prend du temps et ça coûte cher. Il faut isoler précisément la molécule. Ça nécessite des machines que l'IMRA n'a pas les moyens d'acquérir. L'Institut signe donc des partenariats avec des grands laboratoires comme Pierre Fabre ou Sanofi. Ils financent une partie de recherche et peuvent en échange exploiter la molécule. Et en général, le médicament est fabriqué à l'étranger. La présence de ces entreprises étrangères sur l'île a longtemps suscité la polémique. Elles étaient accusées de biopiraterie, c'est-à-dire d'exploiter les ressources naturelles sans que la population locale n'en tire bénéfice. L'exemple le plus connu, la pervenche de Madagascar. Cette plante endémique est cultivée dans le sud du pays. Son principe actif a été breveté par Pierre Fabre, qui en tire un médicament contre la leucémie.
Mais il y a 3 ans, les Nations Unies ont voulu mettre fin à cette situation.
Avec le protocole de Nagoya qui instaure un principe de juste retour. Aujourd'hui, lorsque l'IMRA signe un contrat avec une entreprise, celle-ci s'engage à améliorer les conditions de vie dans les zones de récolte. Les paysans sont par exemple mieux payés, des centres de soins ou des écoles sont construits et la multinationale doit respecter l'environnement. Bon, l'IMRA reconnaît que ça ne marche pas à tous les coups, il manque un mécanisme de contrôle. En plus, certains États comme la France n'ont pas ratifié le protocole et ne sont donc pas tenus de le respecter.
Protéger le patrimoine naturel et la biodiversité de l'île, c'est aussi le message de l'artiste Mafounz. Il accompagne ses textes avec un vali, un instrument à cordes traditionnel malgache. On écoute son titre « Gascar ». On parlait de biodiversité, l'un des symboles de cette richesse naturelle, c'est le baobab. Sur les 8 espèces connues, 6 ne poussent qu'à Madagascar.
Et les plus connues, ce sont ceux de l'allée des baobabs, des troncs monumentaux alignés le long d'une piste rouge. C'est la carte postale de la Grande Île.
Mais une carte postale bien vivante, parce que près de 300 personnes habitent dans l'aire protégée. L'ONG malgache FANAMB est chargée d'assurer la protection des baobabs en co-gestion avec les villageois. Le défi, faire profiter la population locale du tourisme. Pour cela, l'ONG organise par exemple des formations de sculpture sur bois. Noémie Philippot et Balik Ramanan Swavn sont allés à la rencontre des habitants. Pour l'instant, le tourisme ne leur permet que de survivre.
Bien alignés, les arbres centenaires font face au coucher du soleil. C'est le moment où les touristes arrivent sur l'allée des baobabs. Assises par terre, une quinzaine de femmes sculptent l'arbre mythique dans du bois de palissandre. Elles les vendent à 3000 ariars, c'est à peine 1 euro. Alors quand les touristes n'achètent pas, elles ne mangent pas.
La vente des sculptures et l'exploitation du palissandre, ça ne suffit pas pour vivre. C'est la seule activité qu'on peut trouver pour bénéficier des baobabs. Il n'y a que le palissandre et rien d'autre.
Rien d'autre, car depuis 2015, l'allée des baobabs est une aire protégée. Impossible pour les habitants de continuer à cultiver du riz. L'eau stagnait près des arbres et les faisait pourrir sur pied. Leurs racines sont maintenant bien au sec, mais c'est au détriment des cultures des habitants. Une situation difficile pour Germaine.
On n'a pas de ressources, depuis la destruction des terres qu'on cultivait. On n'a vraiment pas de ressources. Du coup, on ne voit pas les améliorations qu'on devrait voir.
Autre problème, de nouveaux habitants se sont installés en plein cœur de l'aire protégée. Ici, ils pensent échapper aux bandits. Mais les autorités sont contre, là l'allée des baobabs doit rester vierge. Alors il faut déplacer ces gens. Pas évident pour Jean-Claude Razafierson, directeur régional de Fanambi.
Les gens sont entrés dans l'aire protégée en pensant qu'il y a plus de sécurité. Pour nos gestionnaires délégués de l'aire protégée, il faut enlever ces gens-là de ce noyau dur. Tout le monde l'exige, y compris les responsables gouvernementaux, mais ça ne se fait pas facilement comme ça. Parce qu'il y a le côté humain aussi qu'il faut voir, et surtout donner une alternative économique et aussi de sécurité pour ces gens-là, pour qu'ils puissent s'installer là où on pense les installer.
Et c'est en dehors de l'aire protégée, à 7 km de l'allée des baobabs, loin des yeux des touristes. Fanambi a aménagé 187 hectares de rizières, des terrains prêts à accueillir ses nouveaux habitants et ceux qui ont été privés de terre. Mais problème, l'eau n'arrive pas, les rizières sont incultivables. Pas de quoi décourager Jean-Claude Razafierson.
À 3 km d'ici, il y a une barrage de déviation que des gens ont détruit en y mettant une prise sauvage qui a détourné l'eau qui aurait dû être utilisée pour ce périmètre. Donc tout cela retarde les travaux. Les gens perdent patience, mais quand on a pu amener l'eau ici en décembre 2016, là, les gens ont rouvert les yeux. Ils se sont dit que quand même, c'est pas du bluff. On va s'y mettre. L'espoir est là.
Mais face au manque de ressources, l'espoir finit par ne plus peser lourd. Début avril, certains habitants ont même manifesté contre l'ONG. Rassoua Ver est président du Fouctan, le groupement de hameaux de l'allée des Baobabs. Pour lui, tant que les rizières sont sèches, Fanambi ne remplit pas son contrat. Et l'amélioration des conditions de vie se fait attendre.
En tant que président du Fouctan, ce que je recherche, c'est de pouvoir développer cette région. Quand on regarde les enfants, c'est triste de les voir mendier aux étrangers en disant n'importe quoi. On devrait leur apprendre ce qu'il faut faire si on le peut. Parce que même moi, j'ai honte qu'ils m'ont dit, c'est triste.
Avec 15 000 touristes par an, l'allée des Baobabs est un des lieux les plus visités de Madagascar. Mais c'est insuffisant pour que les habitants en profitent vraiment. Alors pour l'instant, la protection de ce patrimoine pèse lourd sur la population.
Malgré les difficultés, le gouvernement et différentes ONG veulent mettre en valeur ce modèle de co-gestion et l'appliquer dans toutes les nouvelles aires protégées de Madagascar.
Donc là, c'est Tompkouaf. Ça tire, tsinftala kouchkouchkouniorana. Noi tsinjanana vary mbola maintso ary tsin famirapiratra ny zinga no afaka netaeta dia tsy maintsy manao azafady raha iteny manoloana anareo.
Ce que vous venez d'entendre est l'ouverture d'un kabar, le discours malgache traditionnel, parce que tenir des discours à Madagascar, c'est un art.
À un mariage, à un enterrement, pour le départ d'un ami, chaque malgache connaît ce discours poétique. Longtemps réservé aux aînés, les jeunes le redécouvrent et s'en saisissent. Depuis 10 ans, le kabar connaît un vrai succès auprès de la jeunesse malgache. Alors d'où vient cet engouement? Réponse avec Balik Ramanan Swavn et Teresa Steudel.
Dans un amphithéâtre de l'université de Tananarive, des voix d'étudiants se mélangent. Ils sont une vingtaine à répéter leur discours préparé pour ce samedi midi. Ils suivent un cours de kabar, l'art traditionnel oratoire. À Tana, plus de 400 personnes l'apprennent chaque année. La quasi-totalité sont des jeunes. Ils viennent pour redécouvrir la culture malgache, comme Tiavne, 19 ans.
Un kabar. Au début, ça ne m'intéressait pas du tout, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui savent bien le pratiquer. Mon père le fait aussi, ça m'a poussé à le faire. J'aime le kabar parce qu'il conserve l'identité malgache. Il y a plusieurs cultures à Madagascar, mais le kabar est la plus importante pour moi.
La formation dure entre 8 et 10 mois. L'exercice du jour pour un des élèves, improviser un kabar pour le départ d'un ami.
Je me lève ici maintenant, non pas pour parler avant les aînés, ni pour libérer le verrou de la parole. J'ai reçu la mission de vous transmettre les remerciements et les paroles d'adieu.
Le kabar suit des règles strictes. Le discours doit contenir, entre autres, en hommage aux ancêtres et des proverbes souvent oubliés. Lily en a découvert quelques-uns.
Depuis que j'ai commencé à apprendre le kabar, je connais mieux les coutumes qui existent à Madagascar, surtout celles des côtes. Je connais maintenant divers proverbes et citations, et j'ai vu à quel point l'identité malgache est intéressante, elle est belle et attirante. J'ai pu retrouver un peu mes origines.
Aujourd'hui, Lily apprend le kabar. Mais avant, elle a pratiqué un autre art oratoire qui connaît aussi un boom à Madagascar, le slam. Nous sommes au centre germano-malgache à Tana. Presque chaque week-end, des jeunes se retrouvent ici pour déclamer leurs textes. Sur la scène, ils se succèdent devant un public enthousiaste. Conan, 19 ans, est un fidèle, plus urbain et moins restreint que le kabar. Le slam lui laisse plus de liberté pour s'exprimer.
Je suis pas obligé d'arranger les mots que je vais dire. Je peux dire tout ce qui me vient en tête. Je suis convaincu que dans le kabar, il y a aussi cette simplicité. Mais j'ai peur de pas trouver les mots qu'il faut. J'ai peur de faire des erreurs et de choquer les gens qui m'écoutent.
Faut pas attendre d'être au fin fond de la mer pour arrêter de creuser. Alors,
ben, tiens, voilà ce matin, nous te fais un
Conan s'intéresse à la préservation de sa culture, mais ne passe pas forcément par le kabar.
C'est pas seulement le fait que j'utilise ma langue maternelle qui fait que je valorise mon identité malgache. Je peux faire du slam dans des langues étrangères, mais également dans ma langue. C'est cette liberté qui fait que je préfère faire du slam que du kabar.
Pour Conan, le kabar doit renouveler son vocabulaire et sortir du cadre des cérémonies. Mais il est sceptique. Selon lui, la révolution du kabar, ce n'est pas pour demain. Pourtant, depuis 2011, le musicien Gangsta Bap mélange le kabar avec du slam et du rap. Dans les paroles de ses chansons, il suit les règles du kabar et ajoute des rimes et des mots d'argot.
Il y a un étudiant qui m'a dit que je mélange des cochons, des chiens et des canards dans une pièce. Et moi, j'ai répondu que je suis plutôt comme un chef d'orchestre. Il y a un piano, une guitare et des choristes. Et si le chef d'orchestre sait gérer tout ça, ça peut donner quelque chose de bon.
Mais cette forme de kabar modernisé ne plaît pas à tout le monde.
J'ai reçu des critiques sévères des aînés de l'association de kabar, mais aussi de mes professeurs et de l'académie malgache, parce que le kabar est une culture malgache héritée des ancêtres. Il présente une sagesse qu'il faut préserver.
Donc Stabab se définit comme un point d'intersection entre cette sagesse traditionnelle et la culture d'aujourd'hui. En 2014 et en 2015, il a été élu musicien de l'année par la Radio des Jeunes.
C'était Gangsta Bap, Afa Afa. C'est la fin de cette émission. Merci à tous, Misotcha Betsak, Veluma Dawol.
Ne ratez pas nos deux autres épisodes, l'un sur le monde du travail et l'autre sur les campagnes malgaches. Nous devons beaucoup aux étudiants de l'IEP de Madagascar, alors un grand merci à eux. Nous remercions également Aline Rané-Yvosson et Bernard Conchon pour leur encadrement, à la technique, l'indispensable Jean-Christophe Galen.
Afa afa ohatra ny vozona koa, atelina totolany.
alo tonofony any afa afa ohatra mpanao hotely olona tsy hita no andrahoana sakafo afa afa taopiaza be votonanatra ka eny an-tsena ny manao mba ilalana afa afa ohatra ny mofoakondro mofoakondro nasiana sira ronono velona nasiana angivy afa afa ohatra ny malotona alika malotona alika sy voamadilo ka sady masiso ny marikivy afa afa ohatra ny string anaovana mamoaka fofona anaovana mamoaka fofona satroana mamoaka sofina afa afa ohatra ny gangsta atao hoe endry to adaladala atao hoe adala atao hoe adala to endry ihany afa afa ohatra ny madagasikara mahantra ambony volamena afa afa ohatra ny ramalagasy mahantra eo ambonin'ny arena bois de rose fasy mainty beryl magnesium cuivre mercure zinc radium graphite fer quartz pétrole nickel cobalt tourmaline uranium rubis topaz plomb corindon volamène saphir émeraude diamant.